France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Est-ce que les inégalités entre hommes et femmes régressent ? L'INSEE a publié hier soir une étude qui donne une réponse assez globale sur le sujet. Bonjour Sylvie Lominez.
Bonjour.
Vous êtes la responsable de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE. Présentez-nous cette étude une fois tous les 5 ans, c'est ça ? Comment ça se passe ?
Oui, alors c'est un ouvrage que l'INSEE fait paraître tous les 5 ans, donc la précédente édition datée de 2017. Et puis c'est une synthèse en fait, hein, c'est un panorama de tout ce qu'on peut dire sur les différences de situation entre les femmes et les hommes pendant l'éducation scolaire, l'entrée sur le marché du travail, les salaires, les métiers occupés, oui. Le partage de la conciliation vie familiale et vie professionnelle. Donc c'est un panorama avec les chiffres les plus récents disponibles.
Est-ce que, nanti de tout ça, regard global d'abord, est-ce qu'on peut dire qu'en 5 ans, les inégalités ont quelque peu décru ?
Alors les inégalités diminuent, mais lentement, comme ouais. comme on a intitulé notre vue d'ensemble. Lentement parce que il y a des choix d'orientation dans le système scolaire qui très rapidement préfigurent un peu la division sexuée, la ségrégation professionnelle qu'on va observer sur le marché du travail. Il y a toujours des écarts de salaire, ils se réduisent aussi un petit peu, mais ils sont quand même assez importants. Et puis la conciliation vie familiale vie professionnelle repose quand même toujours beaucoup sur les femmes, et on l'a vu notamment pendant le confinement du printemps 2020.
Ça fait 2 fois que vous revenez sur ce sujet, ça oui. Vous a frappé dans cette étude, cette histoire de conciliation vie privée, vie professionnelle. Là, il y a eu une inégalité peut-être dont on parle un peu moins que les salaires et les autres, et qui vous semble marquante.
Alors, je pense qu'on en parle, mais peut-être qu'on oublie à quel point elle est importante. Il n'y a pas de fait vraiment nouveau, mais on voit bien que les femmes, au moment de l'arrivée des enfants, c'est elles qui se mettent plus souvent à temps partiel. Il y a 3 fois plus souvent de femmes à temps partiel que d'hommes. Alors certes, c'était 5 fois plus il y a une dizaine d'années, mais tout de même, de l'inactivité, des choix de carrière qui font que, par exemple, quand il y a un enfant qui naît dans un couple, des chercheurs ont pu constater que 5 ans après, les femmes avaient un revenu salarial qui était inférieur de 25% au revenu salarial qu'elles auraient eu si elles n'avaient pas eu d'enfants. Et il n'y a pas d'incidence sur les revenus des pères ni sur leur taux d'activité, par exemple.
Les salaires, on y vient avec Véronique. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Voilà, donc moi je travaillais dans un regroupe, donc même service, même âge. Un de mes collègues, même fonction, et donc 25% de salaire en moins pour moi. Donc, effectivement, moi j'ai passé 10 ans de ma vie à avoir un travail, on va dire, alimentaire pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Ensuite, quand mes enfants ont grandi, j'ai repris le chemin du vrai travail, mais voilà, j'ai gagné 25% de moins qu'un de mes collègues.
Merci Véronique pour ce témoignage. Sylvie Lominez, l'écart de salaire, quelle part est due à un écart de salaire, même à compétences, à parcours égal, et quelle part est due au parcours professionnel différent des femmes ?
Alors pour brosser un petit peu
le
panorama, en moyenne en 2019, les femmes ont un revenu salarial qui est inférieur de 22% à celui des hommes.
Donc à peu près le chiffre que nous donnait cette auditrice, qui est
oui,
un peu au-dessus à
25. Cette auditrice disait que c'était à même poste, même profession, etc. Donc je vais y venir.
Allez-y.
Parce que là c'est global. Dans ce 22%, en fait, il y a un tiers qui est dû à des différences de temps de travail, parce que les femmes travaillent plus souvent à temps partiel. Quand elles sont à temps complet, elles font moins d'heures supplémentaires. Mais la plus grosse partie de l'écart, les 2/3, proviennent d'inégalités de salaire horaire. Donc il y a 16% d'écart de salaire horaire, et ces écarts de salaire horaire, ils s'expliquent parce que les femmes travaillent plus souvent, notamment dans certains métiers, dans certains secteurs, comme les secteurs des services à la personne ou du soin, qui sont moins rémunérés. Et ensuite, pour en revenir à quelque chose qui se rapproche plus de la situation que l'auditrice évoquait, des analyses montrent que si on raisonne à expérience égale, à âge égal, à profession égale, même à l'intérieur d'une même entreprise, les écarts de salaire horaires se réduisent. Alors ils ne sont pas de 25%, ils sont de 5% entre femmes et hommes. Et ces 5%, on ne sait pas forcément bien ce que c'est. Est-ce qu'il y a encore de la ségrégation professionnelle, des différences dans les fonctions occupées encore plus fines que ce qu'on observe, qui peuvent expliquer que ça ? Ou est-ce qu'il y a une part de discrimination ? C'est difficile à dire.
Est-ce que vous avez déterminé des secteurs où cet écart de salaire, toute chose égale par ailleurs, pour prendre une expression consacrée, est particulièrement marquante?
Alors, je les ai pas en tête, hein. Il y aura tous les auditeurs intéressés pourront aller voir sur le site de l'INSEE, mais il y a des secteurs de services à la personne ou dans le domaine du soin, qui sont très, très féminisés et qui sont peu rémunérés. Et on peut dire que à travail, à valeur équivalente, il y a peut-être une moindre reconnaissance des compétences professionnelles des femmes dans certains secteurs que des compétences professionnelles des hommes.
Donc les inégalités de salaire pures et dures, si j'ose dire, le temps de travail et l'orientation professionnelle qui se joue à quel moment ? Qui se joue au lycée ?
Oui, ça joue assez tôt parce que dès l'entrée en CP, les jeunes filles sont plus meilleures déjà que les garçons en français, avec un avantage en français qui s'accroît au cours de la scolarité. Au lycée, elles font déjà des choix d'orientation qui sont un petit peu différents. Elles étaient moins souvent en terminale S, par exemple, les garçons, beaucoup plus en voie littéraire. Oui. Même avec la réforme, on voit que les garçons choisissent plus des doublettes avec des spécialités mathématiques, scientifiques, et les filles un peu moins souvent. Et on le voit très bien dans les choix d'orientation à l'université, où les filles, enfin, ou dans l'enseignement supérieur, où les filles sont nettement moins nombreuses dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. Elles sont 30% ou dans les grandes écoles de manière générale, et beaucoup plus dans des filières plus sociales, les humanités, même si elles sont aussi très nombreuses dans les formations plus médicales, odontologie, etc.
Est-ce que la part des femmes cadres augmente au fil des années ?
Oui, alors la part des femmes cadres a augmenté. Alors, déjà dans la population générale, la part des cadres a augmenté avec l'élévation générale des niveaux de diplôme, mais l'essor des emplois de cadres a plus profité aux femmes. Et aujourd'hui, parmi les cadres, 43% sont des femmes et c'était 21% en 82. Donc c'est deux fois plus. Mais pour autant, les femmes n'accèdent pas aussi souvent que les hommes, par exemple, aux emplois, les 1% les plus rémunérés. Il y a de fortes différences.
Est-ce que Sylvie Lominez, le Covid a rebattu les cartes, et comment s'est joué ce Covid du point de vue des inégalités hommes-femmes ?
Alors, on a vu pendant le Covid, il y a eu des études spécifiques qui ont été menées et qui ont montré que, par exemple, pendant le premier confinement, le partage des tâches parentales était très déséquilibré, avec des femmes qui faisaient beaucoup plus de tâches domestiques, mais consacraient aussi davantage de temps aux enfants. Les écoles étaient fermées, hein, il fallait suivre la scolarité. Donc là, le déséquilibre était assez flagrant, en effet.
Les inégalités hommes-femmes en politique, est-ce que là aussi ça se réduit ou est-ce que ça reste compliqué ?
Alors, il y a des lois importantes, hein. La loi de 2020 qui a permis à un égal accès des femmes et des hommes à certains mandats électoraux. Donc la progression des femmes en politique, elle est visible. Vous avez la parité, par exemple, pour les élections régionales, européennes ou départementales. Il n'en demeure pas moins que ensuite les fonctions exercées ne sont pas les mêmes. Vous avez 6 présidentes de région qui sont des femmes. Pour les présidentes de conseils départementaux, il y a uniquement 20% des femmes qui sont présidentes de conseils départementaux. Alors, elles sont 50% à être vice-présidentes, mais pas présidentes.
Donc, on n'y est pas encore à la parité en politique. Un point très important, les maires à la tête de famille monoparentale, le nombre de maires à la tête de famille monoparentale augmente, et assez fortement.
Oui, alors on dénombre environ 2,8 millions de familles monoparentales. Dans 82% des cas, il s'agit de femmes. Le nombre de familles monoparentales augmente progressivement, hein, depuis de nombreuses années. Sur les 10 dernières années, c'est 500 000 familles monoparentales en plus, et sont essentiellement des femmes, et qui cumulent de nombreuses difficultés. La vie tout seul déjà avec des enfants, ça a un impact sur le niveau de vie. Une partie de ces femmes sont sans emploi aussi, ou un peu plus souvent au chômage que les hommes qui sont à la tête de familles monoparentales, et donc avec un risque de pauvreté ensuite qui est important et qui concerne un tiers de ces femmes.
Des femmes qui vivent plus souvent seules, ça aussi c'est une forme d'inégalité, ou en tout cas de différence de vie homme-femme, à laquelle on ne pense pas si souvent que ça.
Non, pas si souvent que ça. Et nous-mêmes, c'est un point qu'on a un petit peu détaillé. Parce qu'en fait, bon, les femmes vivent plus souvent que les hommes. Elles ont une durée de vie qui est plus longue. Mais elles se retrouvent plus souvent seules. Parce qu'il y a les conjoints qui décèdent au bout d'un moment. D'ailleurs, même à des âges élevés, les hommes se remettent plus facilement en couple plus souvent que les femmes. Et donc, les femmes peuvent se retrouver seules. Et en plus, avec des situations de dépendance à chaque âge, à partir de 70 ans, qui sont un petit peu plus prégnantes que pour les hommes. Donc elles se retrouvent à vivre soit seules chez elles, beaucoup, beaucoup plus fréquemment que les hommes, ou en institution, dans des EHPAD.
Il y a des chiffres qui vous ont surpris dans cette étude, auxquels vous vous attendiez pas, des détails
Non, je peux pas dire que des chiffres nous ont surpris, dans la mesure, bon, on regarde les choses année par année, même si on fait un bilan tous les 5 ans, mais on se dit que les inégalités se résorbent quand même lentement, et que à la fois la conciliation vie familiale, vie professionnelle qui repose beaucoup sur les femmes, des normes sociales qui sont quand même très en créer des stéréotypes de genre qui sont toujours à l'œuvre, joue un rôle important encore aujourd'hui.
L'étude, on la trouve sur le site de l'INSEE.
Tout à fait.
En accès libre.
Oui.
Alors voilà, on peut aller sur le site de l'INSEE pour avoir d'autres détails et d'autres chiffres. Merci beaucoup.
Je vous remercie.
Sylvie Lemines, responsable de l'étude de l'unité des études démographiques et sociales à l'INSEE, d'être venue dans les studios de France Inter.